Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Jacques-Yves Molima.
Les attaques et incursions des rebelles de la CODECO et des FPIC se rapprochent de Bounia. Ces rebelles ont installé leur bastion à moins de 10 km de cette cité, mais la police rassure, la situation est sous contrôle. Recrutement de nouveaux magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature l'annonce pour le 9 octobre prochain. Les candidats magistrats du Bazouélé plaident pour leur alignement au site de Kisangani afin d'y présenter ses tests nationaux, tandis que les anciens qui avaient réussi au test ne sont toujours pas affectés. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, ce Serge Tubangou, mandataire spécial du chef de l'État, y revient dans cette édition sur l'état des discussions avec les groupes armés. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Avant d'aller plus loin au sud Kivu, nous venons de l'apprendre, les recherches sont en cours pour retrouver un avion disparu depuis la mi-journée de samedi 8 septembre. L'avion, un Antonov 28, a décollé de l'aéroport de Kavumu aux alentours de 13h et devait effectuer une heure de vol jusqu'à KCC dans le Maniema, mais il n'est jamais arrivé à destination. D'après de sources aéroportuaires, l'avion transportait de marchandises et avait à son bord trois membres d'équipage, dont le pilote, le copilote et le chef de soute. Les recherches sont en cours, mais sont ralenties à cause des conditions météo qui ne sont pas optimales en ce moment, nous a confié notre source à l'aéroport de Kavumu de Bukavu. Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs. En Ituri, les miliciens de la CODECO et de la Force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC se rapproche de plus en plus de la ville de Bounia. Une faction de la CODECO a installé son bastion à Ezekiré, à moins de 10 km du chef-lieu de la province, à partir duquel ils font des incursions dans certains villages. Les miliciens de la FPIC ont progressé vendredi jusqu'à Lengabo, à moins de 5 km à l'entrée de la ville. Leur présence inquiète les habitants, dont certains enfouis à Bounia. Le commandant urbain de la police rassure que la situation est sous contrôle et demande à la population de librement vaquer à ses occupations. Isaac Remoyopi.
C'est depuis environ un mois que la faction ALC CODECO dirigée par un certain loup de la montagne s'est installée à Ezekiré. Ces miliciens ont érigé mardi une barrière à Cotonou à 18 km sur la route Kasseni au bord du lac Albert. Le trafic était suspendu pendant quelques heures avant l'intervention des FARDC pour déloger ces rebelles qui se sont retirés dans leur bastion. Vendredi, ils ont encore fait incursion à Nyamamba où deux personnes ont été tuées et une autre blessée. Ce dimanche, ils ont pris en otage le chef de village de Mbeti, affirme des sources de sécurité. Vendredi matin, ce sont les enseignants de la FPIC qui ont sillonné dans la localité de Lengabo à 5 km de Bounia sur la route Komanda. Cela a créé la panique et certains habitants ont trouvé refuge à Bounia sous l'encadrement de la police. La présence de ces hommes armés suscite la psychose, surtout dans les quartiers périphériques d'Onhoro et Kindia. La population redoute l'infiltration de ces hommes armés dans la ville, ce que rejette le commandant de la police en ville qui rassure que tout est calme. Le colonel Abeli Mwango.
Dans la ville, la situation est sous contrôle et la situation est calme. Les services de sécurité veillent à qu'il n'y ait pas d'infiltration dans la ville de Bounia. Nous demandons à la population de vaquer librement à ses occupations et de ne pas se fier aux rumeurs.
Selon des sources militaires, des dispositions ont été prises pour sécuriser la ville et ses habitants. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et puis, conflit coutumier et foncier dans le territoire de Katanda, dans la province du Kasaï Oriental. Un élu de ce territoire appelle la population calme et à la cohabitation pacifique, ce après l'incendie mercredi dernier de la résidence de l'administrateur du territoire. Les députés député national Bintou Toumba Tchabola appelle le Premier ministre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à prendre des mesures rapides comme ça a été fait dans les territoires de Kwamout pour mettre fin à ces conflits qui n'a que trop duré. On écoute le député Bintou Toumba Tchabola, élu de Katanda au Kasaï Oriental. Il est joint par Pierrot et Lamiji.
Nous demandons avec insistance au gouvernement central et principalement au Premier ministre, au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de s'impliquer dans la résolution de la question sécuritaire à Katanda, de la même manière qu'il s'implique dans la résolution de la question sécuritaire de l'Est de notre pays, de Kwamout dans les grands Bandundu. Partout, ce sont des Congolais qui meurent. Ils méritent tous la même compassion et l'assistance du gouvernement central. Pas plus tard que ce mercredi 7 septembre 2022, on a tué une personne dans les champs à Benakabea. Il s'agissait de M. Chibindji Kajima Kawoja, dans le secteur de Balubalubilange. La résidence de l'administrateur du territoire a été brûlée avec tous ses effets. À mes compatriotes de Katanda qui habitent le secteur de Balubalubilange, en conflit, notamment les Bena Mwimbia, les Bena Kapuya et Bena Shimba, nous vous exhortons à vivre en paix, en harmonie et de cohabiter de manière pacifique. Pourquoi tuer votre frère? Pourquoi tuer votre sœur avec qui vous vivez ensemble? Arrêtez ces conflits inutiles qui retardent le développement de notre territoire.
Par ailleurs, le conflit entre les Teke et les Yaka Kwamutu Maindombe a entraîné le déplacement de plusieurs familles. La province du Kwilu a reçu dans l'ensemble, depuis le mois d'août dernier, plus de 4000 déplacés fuyant ces affrontements. Parmi eux, on compte 34 enfants non accompagnés. Ces chiffres ont été rendus publics samedi 10 septembre par le directeur de cabinet du commissaire général des affaires humanitaires du Kwilu, Jérémy Bikiele. Ces déplacés sont dépourvus de tout, d'où l'appel du commissaire général en charge du transport au Kwilu, assumant l'intérim de son collègue des actions humanitaires, Grégoire Malloy, demande donc aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Autre nouvelle, les autorités congolaises ont annoncé hier avoir reçu plusieurs millions de dollars de l'Ouganda en exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice. Le commandant de verser à la RDC des fonds au titre de réparation dus pour l'invasion de l'Est entre 1998 et 2003. Selon la ministre de la Justice et garde des Sceaux, intervenant au cours du Conseil des ministres, ce versement intervenu le 1er septembre, soit 65 millions de dollars américains, est la première de 5 tranches annuelles, soit un total de 325 millions de dollars que l'Ouganda devra verser à la République démocratique du Congo. Suivez le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, dans cet extrait choisi par Noéla Luzitu Kabambi.
La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a fait le point au Conseil sur l'exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'affaire des activités armées de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Elle a rappelé qu'au terme de cet arrêt, les montants intégrales dus à notre pays doivent être acquittés par l'Ouganda en 5 versements annuels de 65 millions de dollars américains, dont le premier est intervenu le 1er septembre 2022. Ces fonds sont logés dans un compte transitoire au ministère de la Justice et garde des Sceaux, dans une banque locale, lequel compte ne pourra être actionné qu'après l'opérationnalisation effective du fonds spécial de réparation de l'indemnisation aux victimes et activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo ou à leurs ayants droit, et le transfert des signatures à ces organes attitrés pour l'engager en tant qu'établissement public. Le Conseil a pris acte de ce rapport.
Notez que la RDC réclamait plus de 11 milliards de dollars américains à l'Ouganda. En février dernier, la Cour internationale de justice a fait fixer à 325 millions de dollars le montant des dommages. Les troupes ougandaises étaient intervenues et avaient occupé la province de l'Ituri, riche en or. Selon la plus haute juridiction de l'ONU, Kampala est responsable des violations du principe de non-ingérence et du droit international humanitaire. Le Conseil supérieur de la magistrature annonce le recrutement de nouveaux magistrats le 9 octobre prochain. Sur un total de 34 063 dossiers de candidats, 3000 sont concernés par ce recrutement. Le concours de recrutement était longtemps réclamé par le chef de l'État lors d'une des réunions du Conseil de ministres afin de combler la carence constatée dans la magistrature, surtout en province. D'autres détails avec vous, Jeff Ngoy.
Les 3000 nouveaux magistrats seront répartis sur 2 ans à raison de 1500 par an. Ceux-ci seront choisis parmi les candidats ayant obtenu au moins 50% et classés en ordre utile. Selon la décision du CSM, le projet d'ordonnance de nomination des 1500 nouveaux magistrats sera transmis au président de la République le 30 novembre 2022. Le chronogramme du concours a connu 21 étapes de son organisation, partant de l'avis officiel du recrutement à l'affectation des magistrats recrutés dans différents parquets civils et militaires. 9 matières sont retenues, à savoir la procédure pénale, les procédures civiles, le droit pénal général, droit pénal spécial, le droit civil des personnes, le droit civil des obligations, le droit civil des biens, éthique et déontologie des magistrats, en tenant compte du nombre élevé des candidats. Par ressort des cours d'appel par province et des difficultés de mobilité, 15 sites sont retenus pour le concours, dont les chefs liés des 11 anciennes provinces et la ville de Kinshasa, 3 chefs liés des provinces démembrées. C'est depuis le 20 mars que le Conseil a amorcé ses activités de recrutement avec le dépôt des candidatures au 23 mars. La publication des résultats du concours est attendue le 31 octobre prochain.
Concernant ces tests nationaux, le candidat magistrat de Bazouélé plaide pour leur alignement au site Kisangani plutôt qu'à Kinshasa où ils seraient retenus. Ils évoquent des difficultés liées à leur déplacement, les transports notamment. Ce cri d'alarme est intervenu au lendemain de la publication par le Conseil supérieur de la magistrature des différents sites devant accueillir les candidats pour ces épreuves. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Ces candidats magistrats du Bas-Ouélé sont au nombre de 30, dont 8 femmes. Ils disent avoir expédié individuellement leur dossier à Kinshasa, puisque le premier président de la cour d'appel de Bouta n'avait pas voulu s'en charger. Selon eux, ceci serait à la base de la non-retenue des candidats pour le compte du Bas-Ouélé. Kinshasa étant difficilement accessible pour eux, ils souhaitent leur transfert à Kisangani. L'un d'eux, Landrine Voula, explique.
C'est pour concourir à la représentativité provinciale d'une part et réduire la distance qui sépare Kinshasa avec la province du Bas-Ouélé d'autre part.
Dans cette démarche, ils sont soutenus par la société civile Force Vive du milieu, comme en témoigne Jean-Marie Epekana, son président.
Notre cri d'alarme va tout droit au niveau du Conseil supérieur des magistrats, afin que nos candidats qui sont sélectionnés au niveau de Kinshasa puissent être ramenés au niveau du site de la Tchopo, afin que nos candidats puissent passer pour les comptes du Bas-Ouélé.
Le premier président de la cour d'appel de Bouta dit n'avoir pas été mandaté pour la collection des dossiers des candidats magistrats à expédier à Kinshasa. Toutefois, Edmond Soko les exhorte à adresser leurs doléances directement au Conseil supérieur de la magistrature. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio.
Alors, pendant que les nouveaux candidats magistrats se préparent pour les tests, les anciens qui avaient réussi au concours organisé en 2009 et qui sont sur la liste des réserves crient au scandale. Ils disent être surpris de n'avoir toujours pas, jusqu'à ces jours, des lieux d'affectation. Et le Conseil supérieur de la magistrature ne s'occupe pas de leur cas, affirme-t-il. D'après certains d'entre eux, la priorité devrait leur être accordée. Pour cela, ils plaident pour que la loi portant statut des magistrats soit respectée en cette matière. On écoute David Moukaou Bakajika au micro de Jean Gandou.
Nous étions au total sur l'ensemble de la République 2500. En 2010, on a eu à nommer 1000. En 2011, entre l'eau des 1000, nous étions portés sur la liste des réserves. Nous avions rappelé à tous les gouvernements qui se sont succédés. À l'époque, le président Luamba avait répondu disant que nous devrions attendre les assises du Conseil supérieur de la magistrature. Notre leitmotiv, c'est l'article 2 de la loi portant statut des magistrats. Cet article est strict à son cinquième alinéa. Il dit on ne peut pas organiser un test à la magistrature si la liste des réserves n'est pas épuisée. Alors nous, nous sommes sur la liste des réserves, mais curieusement, il y a un communiqué officiel qui précise la tenue des tests de la magistrature pour le 9 octobre. Ce communiqué, nous estimons que ça vient en violation de cet article. Nous demandons au chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, de voir notre cas afin que nous puissions être aussi nommés. Nous avions passé le test en bonne et due forme, nous avions réussi.
Radio Okapi vous propose à présent, dans une série de reportages, d'aller à Yangambi, dans la province de la Tchopo. D'abord, pour découvrir cette tour à flux de carbone. Haut de 55 mètres, elle est la première du bassin du Congo, avec comme objectif principal de comprendre l'apport des forêts tropicaux dans l'atténuation du changement climatique. Paul Matendo revient de Yangambi, il nous en parle.
Un tour à la tour à flux nous révèle que c'est une antenne comme celle des télécommunications. Comment fonctionne-t-elle? Michel Baudouin, recteur à l'Institut facultaire de Yangambi, explique.
La tour à flux, c'est assez simple. C'est une tour de télécommunications. Les gens ont l'habitude de connaître cette infrastructure. Et on mesure au-dessus de la canopée les échanges de gaz avec des sondes qui mesurent toute la journée, 24 heures sur 24, tous les échanges. Comme vous le savez, la forêt, pendant la journée, elle fixe le CO2 et elle produit de l'oxygène. Pendant la nuit, c'est l'inverse.
Pourquoi cette tour est-elle installée à Yangambi? La réponse avec son initiateur Pascal Boux, professeur à l'université de Gand en Belgique et directeur général de la société Congo Flux.
Il y a des données climatologiques depuis les années 30 déjà. Il y a l'herbier. Donc il y a une forte connaissance de base. Oui. Au deuxième niveau, donc, la forêt de Yangambi est une forêt très représentative pour le bassin de Congo. Donc,
en octobre prochain, ce tour fera exactement 2 ans depuis son implantation. De retour de Yangambi dans la province de la Tchopo, Paul Matendo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Militaire ivoirien détenu au Mali, nouveau tournant dans la crise entre Bamako et Abidjan. Les deux pays ont franchi une nouvelle étape ce week-end dans le bras de fer qui les oppose depuis le 10 juillet. Le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, a déclaré vendredi soir que les 46 militaires ivoiriens toujours détenus à Bamako ne seraient pas libérés tant que Abidjan ne livrerait pas les personnalités politiques maliennes en exil en Côte d'Ivoire. Abidjan n'a pas réagi officiellement, mais un haut responsable proche de la présidence ivoirienne a parlé sur RFI de prise d'otage. En Ukraine, Kiev reprend encore du terrain. Vaste coupure d'électricité dans l'Est. Samedi, les villes et villages sont tombés les uns après les autres et le Kremlin a ordonné, pour masquer une véritable déroute militaire, le retrait de ses troupes en République populaire de Donetsk. Les chiffres donnent le tournis samedi soir. Volodymyr Zelensky estimait que l'Ukraine avait regagné 2000 km de territoire. Dimanche matin, on évoquait 3000 km et finalement, c'est plus de 8000 km qui retournent sous le contrôle de Kiev, soit bien plus que ce que la Russie a pu prendre à l'Ukraine depuis le mois d'avril, alors même que Vladimir Poutine avait ordonné à ses troupes de s'emparer de la totalité de Donbass avant la date butoir du 15 septembre.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Serge Tshibangu, mandataire spécial du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans un entretien exclusif accordé à Radio Okapi, il dresse l'état des lieux du processus de paix initié depuis quelques mois par le président de la République en faveur des éléments des groupes armés candidats à la démobilisation de la partie est de la RDC. Serge Tshibangu s'entretient ici avec Jean-Claude Lotte qui dit les suivants.
Professeur Serge Tshibangu, bonjour.
Bonjour.
Depuis le dernier conclave de Nairobi, on se rend compte que les choses n'ont pas trop bougé et cela est dû à quoi?
Ça dépend de quel point de vue nous disons les choses n'ont pas bougé. Tenez, depuis le mois d'avril de l'année en cours, donc depuis le premier conclave des chefs d'État et depuis que nous avons eu Nairobi 1, le 23 avril de cette année, jusqu'à ce jour, 5 mois au moins, les groupes armés ont pu maintenir le cessez-le-feu. De deux, les convois humanitaires n'ont plus été attaqués et c'était les deux conditions sine qua non pour que les groupes armés restent dans le processus politique de Nairobi.
Ce qui n'est pas le cas de l'Ituri, où vous avez, je crois que vous êtes au courant de l'activisme des groupes armés qui pourtant avaient signé cet accord.
Ces dernières semaines, effectivement, on nous a signalé qu'il y a quelques escarmouches. Mais souvenez-vous qu'un groupe armé comme CODECO, par exemple, ne faisait pas partie du processus de Nairobi. C'est de manière unilatérale qu'ils avaient décidé d'entrer dans le processus de Nairobi. Mais quand nous sommes passés à Bunia, parmi les groupes armés qui étaient invités, la CODECO ne s'était pas présentée. Zaïre ne s'était pas présentée. Tout dépend de qui est-ce que vous considérez comme ayant repris les hostilités sur terrain. Bien sûr, nous déplorons cela, mais souvenez-vous que c'est l'une des raisons pour lesquelles la force régionale est en train de se déployer pour traquer justement les forces négatives récalcitrantes au processus politique de Nairobi.
Est-ce que vous en parlez? À quand la reprise des discussions justement avec ces groupes armés?
Nous sommes en train de préparer Nairobi 3. Cette fois-ci, le message, c'est vrai, ne sera plus seulement cessation des hostilités, okay, donc renforcement de ce message-là, mais aussi c'est de voir comment commencer une certaine transition par rapport au PDDRCS. Parce que les groupes armés, c'est vrai, après avoir déposé les armes, il y aura le désarmement, il y aura la démobilisation, mais tout ça font partie des activités donc du PDDRCS. Alors nous sommes en train de travailler sur cette transition-là entre le message de cessation des hostilités, cessation des attaques contre les convois humanitaires et les faire passer au PDDRCS qui, en fait, prendra la charge. Mais également la justice, n'oubliez pas. Ceux-là qui ont été des auteurs de crimes et des atrocités contre notre peuple devront quand même répondre devant la justice. Et je crois que c'est important de le répéter. Le chef de l'État a été clair avec cela. Aujourd'hui, nous ne parlerons plus de réintégration dans l'armée ou dans les forces de sécurité. C'est réintégration dans la communauté pour la stabilité de ces communautés-là.
La société civile, d'autres acteurs estiment que les choses traînent trop. Ce qui fait, c'est que les groupes armés reprennent avec les armes. Pourquoi trop traîner? Et puisque nous en parlons, qu'est-ce qu'on peut obtenir de votre tournée pour mobiliser les fonds? Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que vous avez eu cet argent pour financer tous ces programmes?
Je dirais dirais oui, mais une précision d'abord, c'est que la tournée n'était pas seulement pour mobiliser les ressources. Et pour les ressources, c'est en fait, il y a des pays qui se sont mobilisés pour soutenir cela.
La population de l'Est principalement se demande si réellement le gouvernement de Kinshasa manque de l'argent pour, dans un premier temps, ne fût-ce que démarrer ses programmes, mettre la machine en marche, comme on peut le dire, en attendant que vous continuiez à mobiliser les fonds, les ressources auprès des partenaires.
Je ne suis malheureusement pas porte-parole du PDDRCS. Mais ce que je sais, c'est que je crois que les responsables du PDDRCS sont justement occupés à finaliser tout ce qui a finalisé pour pouvoir lancer concrètement ce programme et ses activités.
Quel est le message que Serge Tshibango a envie à donner à ces leaders de ces groupes armés, peut-être qui s'impatientent et qui continuent à commettre des actions par rapport à ces processus?
Premièrement, ils doivent maintenir ce cessez-le-feu. Deuxièmement, ils doivent continuer à ne pas attaquer les convois humanitaires. Je ne pense pas que nous donnons ici un butin de guerre, honnêtement. C'est pour ça que cela, malheureusement, vous appelez ça de l'impatience, mais nous appelons ça faire souffrir la population. Ceux-là qui, malheureusement, continueront à s'entêter. Faire souffrir la population, la force régionale est en train de se déployer justement pour traquer et éradiquer ces forces négatives. Parce que ceux-là qui font souffrir notre population sont considérés en fait comme des forces négatives, que ce soit des groupes armés locaux comme des groupes armés étrangers. Nous sommes en train plutôt de passer le message du chef de l'État qui leur a tendu la main de déposer les armes et de se mettre à la disposition du PDDRCS. Alors ceux qui considèrent qu'ils ont des conditions à donner à l'État congolais, malheureusement, ils vont faire face et au FRDC et à la force régionale qui sont en train de se préparer à les traquer.
Professeur Serge Tshibango, je vous dis merci.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal mise en onde par Polydor Basunga. Coordination Pierrot et la Meji et supervision Noëlla Luzitu Kabambi. Merci pour votre particulière attention.